Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je sais faire deux choses dans la vie, c'est des pommes de terre sautées et écrire. Et tout d'un coup, je ne savais plus écrire. Et si,
j'espère que tes pommes de terre sont aussi bonnes que tes
bouquins. Il m'arrive de les foirer.
C'est normal.
Mais on me dit qu'elles sont pas mal. Voilà, ouais. C'est deux domaines dans lesquels j'ai des compliments, les pommes de terre sautées et les littératures. Et il me restait plus que les pommes de terre sautées. Et donc je voyais ma femme...
Franchement, il y a moyen de faire une carrière autour des pommes de terre sautées, si je puis me permettre.
Ouais, la friterie, tout ça, mais ça a déjà été fait et ça m'angoissait un peu parce que...
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu, je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Olivier, bienvenue. Et justement, tu étais en train de dire, mais comment ça, je suis dans ton podcast Histoire de succès alors que ça parle que de mes échecs et de mes ratés.
Ben voilà, tu viens de tout résumer. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans cette émission alors que je suis un perdant.
Oh là là.
Le type veut nous parler de succès. Allons-y, parlons de succès.
Ce podcast n'est pas très bien nommé, tu sais, parce que moi, je voulais pas raconter le succès, je voulais raconter des parcours de vie.
Tu vois,
de gens qui sont à un moment donné arrivés à ce qu'on pourrait appeler le succès, mais en fait...
Mais j'avais compris, figure-toi.
Ça veut rien dire, ouais, le succès.
Un peu, quand même.
Pour plein de gens, c'est vraiment...
C'est le sujet de notre émission, et je vais pouvoir déployer ma définition du succès et de l'échec.
Est-ce que t'as la sensation, toi, que t'es arrivé au succès, déjà, pour commencer ?
Alors, oui, je pense... Alors, y arriver de manière momentanée, c'est-à-dire que l'idée que je me faisais d'un succès, c'est ce que j'ai vécu pendant les 3 ans de Bojangles, parce que c'est une tournée qui devait durer 3 mois et qui a duré 3 ans. Et là, incontestablement, oui, quand on est reconnu comme ça et qu'un livre suscite autant de réactions, exactement les réactions qu'on voulait obtenir des lecteurs, je parle même pas de succès en termes de vente ou succès financier. Je parle de ce que je voulais écrire et de ce que ça suscite chez le lecteur.
Comment les gens l'ont reçu.
Voilà, ça
finalement.
C'est le premier succès. C'est-à-dire que toutes les cordes que j'ai pincées en écrivant ont vibré dans le cœur des lecteurs.
C'est beau.
D'une grande partie des lecteurs, en tout cas. Donc ça, peu importe que le livre se vende à 2000 ou à 200 000 exemplaires, à mon sens, ça, c'est une idée du succès.
Et alors, quand tu dis Bojangles, pour mettre un peu de contexte, c'est ton premier livre que tu as édité, qui s'appelle En attendant Bojangles, qui a
cartonné quasiment instantanément en plus.
Avant la sortie. Oui, avant la sortie, il a été acheté dans 6 pays étrangers.
Incroyable.
Ce qui est assez rare et ce qui a contribué à ce qu'on appelle un buzz avant, c'est que la presse spécialisée s'est emparée du truc en disant il est déjà vendu dans 6 pays, ce qui a dû attirer l'œil d'un certain nombre de journalistes et puis tout ça, voilà. Et puis ensuite les lecteurs ont fait le travail, les libraires aussi. Mais avant même de parler de succès tel qu'on l'entend, c'est-à-dire une pluie de dollars, des lunettes de soleil et une limousine, il y avait ces deux mots qui étaient rire et pleurer. Mmh. Et ça, mon texte l'a suscité chez les gens. Et donc, c'est une première idée du succès. Car auparavant, et c'est là que nous allons, là que se trouve le terreau et le sel de cette interview, c'est qu'auparavant, je n'arrivais jamais à obtenir le résultat que je voulais ou le résultat qu'on attendait de moi. Voilà. Et donc oui, c'est une idée du succès. Ensuite, le livre c'est très bien vendu, à près d'un million d'exemplaires, dans 39 pays, il me semble. J'ai eu toutes les déclinaisons d'adaptations possibles et imaginables. J'étais à Barcelone pour l'adaptation au théâtre dans un. Alors voilà une autre idée du succès, c'est la tête du théâtre qui est sur les Ramblas, c'est le théâtre Poliorama, c'est tout ce que je rêve dans mon imaginaire de théâtre, un théâtre néo-gothique, magnifique, etc. La représentation était splendide, c'est une star espagnole qui l'a mis en scène, c'est une star espagnole qui joue la mère.
Le livre a été en France adapté au cinéma.
Adapté au cinéma.
Mais Romain Duris et Virginie Fia.
Oui, c'est voilà, donc il y a plein de choses à mettre dans le succès. Alors, pour le coup, j'avais pensé au cinéma quand j'ai écrit le texte, puisque tout me paraissait très visuel, très cinématographique, et j'avais pensé à d'autres comédiens. Mais il y a eu 17 réalisateurs que j'ai rencontrés pour l'adaptation, et les trois comédiens ont été cités par des réalisateurs différents. Ils ne se sont pas retrouvés dans le film, mais ça devenait complètement surréaliste, puisque j'avais des rêves délirants dans mon lit quand je fumais des clopes et que j'écrivais Bojangles, et que 3 ans ou 4 ans après, j'entendais des réalisateurs connus citer ces noms-là. Et là, oui, on se dit, c'est une farce absolue, ce qui m'arrive. Mais c'est magnifique, mais c'est une farce. C'est délirant, parce qu'il en manquait un, c'était Benoît Poulvorde. Et il a été cité dans le dernier entretien que j'ai eu avec un réalisateur qui a dit, Benoît l'a lu, il a adoré. Et là, on se dit, mais c'est incroyable, j'ai eu les trois noms des comédiens. Le succès réside aussi dans des détails, ce qu'on projette comme fantasme et la réalité qui arrive. Moi, mes fantasmes étaient délirants et la réalité s'est montrée encore plus délirante que mes fantasmes. Donc c'est le seul cas où ça m'est arrivé dans ma vie. Donc j'espère que ça m'arrivera à nouveau parce que c'est très déconcertant et un peu flippant aussi.
Flippant dans quel sens?
Là, revenons aux échecs. J'ai tout foiré pendant les 36 premières années de ma vie. Et donc, dès que je me fixais un objectif, je ne l'atteignais jamais ou mal. Et donc, j'ai déçu beaucoup de gens. Donc, tout ça n'était pas, c'était pas un climat très, très agréable. Et donc, flippant dans le sens où... Quand je me fixais des objectifs qui n'étaient pas non plus délirants, etc., je ne les atteignais pas. Et l'objectif le plus délirant que je me sois fixé dans ma vie, c'est celui qui a été dépassé largement. Et en plus, il a été public. Donc, on a le sentiment d'être une fée, quoi. En somme, on se dit, je suis content d'avoir foiré tout ça pour que l'objectif soit explosé à 36 ans. Voilà, c'est long. 36 ans, c'est la moitié d'une vie. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu flippant. Ça va, j'ai pas terrifié, mais parfois on est dépassé. J'avais inventé un titre quand j'écrivais le texte parce que pour tenir, en tout cas pour moi, il faut que je visualise tout ce qui va se passer au mieux. Il faut que les détails soient réglés au mieux. Donc j'avais trouvé un titre dans mon lit en 2013 en fumant des clopes parce que à l'époque je fumais dans mon lit.
T'as arrêté ça?
Ma femme ne veut pas, et puis je comprends, c'est mieux maintenant. Sur le moment, je me disais, à quoi? C'est pas mal de dormir dans un cendrier, non ?
Mais bien sûr.
C'est hyper agréable.
Puis il y a un truc un peu écrivain.
Et maintenant, je lui donne raison. Mais c'est, sur le moment, je dis, ah bon, ben, on n'a pas le droit, ça te dérange.
C'est moi fumer tout en écrivant dans mon lit, là.
Oui, oh, voilà, ne m'embête pas. Puis ça sent bon. J'avais trouvé un titre qui était Olivier Bourdeau fait danser la folie. Et le troisième article, je crois que c'était Zin Rock, et c'était Olivier Bourdeau fait danser la folie, qui venait d'un journaliste que je n'avais jamais rencontré.
Incroyable.
Léonard, ouais. Donc, comme je dis, pour une fois, j'avais inventé un univers délirant, parce que, enfin, c'est peu accessible. Et il y avait beaucoup de choses, qui rentraient dans toutes mes cases de fantasmes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc, tu dis, bah, ça marche en fait, la prophétie autoréalisatrice, ça peut fonctionner. Mais j'ai trouvé une citation dernièrement, dont je ne me souviens plus l'auteur, mais il me pardonnera, je pense qu'il est mort, donc il ne va pas me faire chier pour plagiat. C'est « Celui qui trouve sans chercher a souvent été celui qui a cherché sans trouver. » Et voilà. Et donc, j'ai beaucoup cherché sans trouver. Et le jour où voilà, c'est Beau Jungles, et tout paraît si simple. Sauf que c'est précédé d'un nid d'embûches, de merde, de galères, de... voilà, donc bon, pour une fois dans ma vie, tout se réalisait comme je l'avais prévu, même le titre de certains articles, ouais.
Incroyable.
Olivier
hein.
Bourdeau fait danser la folie, c'est beau en plus.
C'est...
Ouais, mais c'est pour dire un peu à quel point je suis mégalo. C'est-à-dire que j'avais déjà inventé le titre, ouais, incluant mon propre nom, enfin.
Mais ce qui me fascine en même temps, c'est cette un peu cette dichotomie, tu vois, entre ce que tu racontes justement dans ce bouquin dont on n'a pas encore parlé, hein, qui s'appelle développement personnel. Tiens, je te sors un petit peu à boire en passant, voilà.
Et c'est très sympa. Et le bruit aussi bien là.
Oui, tout à fait. C'est important. Tu vois, touc. Donc oui, qui sort ces jours-ci là, où tu racontes justement finalement ton parcours pour en arriver là, et également tes 5 mois, c'est ça, un 5 mois de dèche où t'as la sensation que t'arriveras plus jamais à écrire, t'as pas écrit une page et que t'as la sensation que c'est terminé, quoi.
Ouais, et alors c'est 7 mois, mais en fait j'ai commencé à paniquer au bout de 5. Donc tu donnes une bonne information, tu n'es pas à l'origine du fake news. Je te félicite. Mais j'ai mis 5 parce que j'ai commencé à paniquer après 2 mois d'échecs. Là, j'ai commencé. Dans un premier temps, je me marrais. C'était vraiment très mauvais. Il y avait des phrases que je me répétais dans la journée en éclatant de rire ou en pouffant. Peut-être pas en éclatant de rire, mais en pouffant. Quand je retrouvais mon texte, je me disais, mais waouh, c'est vraiment de la merde. Je n'ai même pas envoyé ça à mon éditeur. Hein. Enfin, c'était inenvoyable. Et même mon épouse, je lui donnais un texte sur 3 parce que, bon, voilà, il fallait quand même que j'aie l'avis de quelqu'un. J'ai pas toujours un bon avis sur ce que j'écris, mais là j'étais quand même persuadé que c'était nul, quoi. Et alors là c'était le début de la panique absolue, parce que je sais faire 2 choses dans la vie, c'est des pommes de terre sautées et écrire. Et tout d'un coup je savais plus écrire. Et si
j'espère que tes pommes de terre sont aussi bonnes que tes
mais il m'arrive de les foirer,
mais
on me dit qu'elles sont pas mal, voilà, ouais. C'est 2 domaines dans lesquels j'ai des compliments, les pommes de terre sautées et les littératures, et il me restait plus que les pommes de terre sautées. Et donc je voyais ma femme
déjà... franchement, il y a moyen de faire une carrière autour des pommes de terre sautées, si je puis me permettre.
Ouais, la friterie, tout ça, mais ça a déjà été fait. Et ça m'angoissait un peu, parce que je me voyais pas faire des pommes de terre sautées toute la journée. Mais je me dis, merde, si j'avais pu arrêter de faire des bonnes patates sautées et continuer la littérature, ça m'aurait arrangé. Et là, il me restait que... Et donc, c'est un peu pauvre. D'autant plus que ma femme était enceinte. Si le pauvre garçon va bouffer des purées et patates sautées, voilà. C'est bien pour remplir une assiette, mais pas assez pour remplir un frigo, les patates sautées. Et donc, bon bref, le seul domaine où j'avais eu des compliments, c'était l'écriture. si j'étais prétentieux, la littérature, et il était en train de se dérober sous mes pieds. Et je pense que si on s'habitue à l'échec, on l'apprivoise un peu, mais pas totalement. Mais le succès de Bojangles m'a terrorisé à l'idée d'avoir de nouveaux échecs, parce que à 36 ans, on a envie de tourner une page et on se dit bon bah ok, j'étais un tocard pendant 36 ans. Maintenant, ça marche et ça a été amplifié par cette connaissance aiguë de l'échec. Pactum Salis qui est sorti après, c'était un succès mitigé, mais les ventes étaient bonnes, succès critique mitigé, tout ça, etc. Bon, et puis bah, j'étais encore en train de faire la promo de Bojangles dans le monde, donc mon ego était satisfait. Il y avait encore une petite montgolfière dans la tête. J'ai dit bon allez, c'est pas grave, c'est moyen, moyen. Et Florida, j'ai eu un succès critique incroyable, qui n'a pas été suivi par les ventes. Mmh. Ça a été un succès modéré, un succès mais pas un triomphe quoi, pas à la hauteur de ce que je lisais dans la presse. Donc déjà j'avais commencé à paniquer en me disant pop, l'échec est en train de derrière la porte. Mmh. Et peut-être que ça a joué, c'est que pendant toute cette période où j'écrivais pas, ça me stressait en me disant il faut que je retrouve quelque chose qui claque, et rien ne me satisfaisait. Et plus j'écrivais de la merde, plus je déprimais, plus je commençais à réécrire de la merde. Et donc c'était un cercle vicieux. Et donc je suis devenu un peu cinglé. Je me dis bon c'est terminé en fait, je j'y arrive plus.
J'ai tout donné, c'est ça, t'avais la sensation.
Ouais,
que...
j'ai tout donné et je Ça m'échappe, quoi. Ça m'échappe. Il y avait des bonnes phrases, il y avait des bonnes idées, mais il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de... Il manquait un truc. C'était assez désespérant. Et ça, cet état a duré 5 mois. 5 mois de plongeons et de chutes, de nuits blanches successives, mais des vraies nuits blanches. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai une nature plutôt heureuse, je n'aime pas trop me plaindre. Je suis toujours souriant, et donc les gens ont du mal à croire quand je leur dis je vais pas bien, etc. Ma mère m'a envoyé un mail dernièrement parce qu'elle avait lu un article sur développement personnel qui était bon, et elle me dit tu vois ta dépression elle l'a foutu entre guillemets. Aura au moins servi à faire un bon texte, mais quand à mon
c'est
éditrice
dur.
Ouais non mais c'est pas méchant, mais
oui, je comprends que ce soit pas méchant,
mais quand je lui en parlais elle me disait oh, parce que je raconte des conneries tout le temps. Mmh. Ça veut pas dire que le fond est très heureux. Je raconte des conneries pour meubler, pour voilà, c'est comme ça que je fais. C'est une manière de rendre la vie des autres plus agréable. Et puis moi quand je raconte des conneries, je pense pas à la merde dans laquelle je suis. Et donc ça a toujours été ma défense. Mais quand je disais à mon éditrice, j'ai fait 2 nuits blanches de suite, elle me dit oui, bah t'as qu'à essayer le magnésium.
Oh waouh.
Ouais.
Et personne n'est compatissant
avec
toi dans
cette
histoire.
Moi, je me l'injecte dans les yeux. Ça marche pas. Et un de mes meilleurs amis me dit, bah, prends une camomille. Ouais, à 4h du matin, je m'arrachais le visage parce que je devais me lever à 4h.
Oui,
je n'avais pas dormi et que je me levais quand même pour essayer d'écrire. Et j'écrivais encore de la merde, ce qui me hantait toute la journée et ce qui m'empêchait de dormir la nuit d'après. Donc, c'était des successions de nuits blanches qui étaient... Mais en fait, c'est de ma faute. Je crois que je dois le dire d'une certaine manière. Je n'aime pas trop le larmoyant. Mais bon, du coup les gens sont embarrassés, puis ils se disent bon, il exagère un peu. Mais non, mais j'étais vraiment au fond. Alors ouais. le seul témoin, la pauvre, c'est ma femme qui elle a bien pris la mesure du problème 24 heures sur 24. Et je la remercie infiniment hein, parce que moi à sa place je me serais peut-être barré. 5 mois c'est long.
Ouais. À l'échelle d'une vie ça va.
Oui. Bon, si je veux charger la barque, elle était enceinte.
Ouais.
Et donc, j'étais encore plus déshormonée ou hormonée ou patraquelle, alors que j'aurais dû être à son service. Et
on
là,
a fait...
c'était pas vraiment le cas. Mmh. Donc, j'étais un mari con et absent.
À ta décharge encore, parce que je trouve tout... On a déjà fait un épisode d'Histoire de Daron ensemble.
Ouais.
Où tu racontes...
C'est loin de la réalité.
Où tu racontes ton enfance avec ton père. Donc j'invite tous les gens à aller écouter cet épisode.
Ah, moi aussi.
Ça...
Faut que ça pète des scores sur Deezer.
C'est ça, énorme.
Spotify, record.
Mais surtout
plus que
avant
le dernier
tout...
Jay-Z.
Putain, you know Olivier Bourdeau, yeah.
You know Olivier
Histoire
Bourdeau.
Of the Daron, incroyable.
Mais c'est surtout que tu racontes un petit peu ton enfance en fait à travers une nouvelle et ton rapport à ton père. Et en fait, ton père est mort. Ah, pour moi, il y a un moment donné, une
grande. Il est mort.
Bah, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu
Putain,
dis.
Putain, c'est pour ça qu'il répond pas au téléphone. Je souhaitais son anniversaire. C'était dernièrement. Je me suis dit, tiens, il manque de correction, cet homme-là.
Putain.
Et là, en fait, il est mort. Mais merci de me le rappeler. J'ai appelé ma mère pour non, m'assurer mais... qu'il est bien mort.
Ouais, tu vois, tu fais des blagues encore, ouais. Mais tu, en fait, dans cette discussion qu'on a ensemble, tu vois, t'as toute une conjonction de trucs qui se passent pour toi dans ta vie à ce moment-là, tu vois, entre la future naissance de ton fils,
ouais.
Effectivement, cette sécheresse là momentanée que t'as eue en termes littéraires, et puis bah la mort de ton père aussi qui joue quelque part
qui jouera toujours un rôle. Enfin, mais c'est pas sa mort, il joue un rôle,
oui.
C'est sa vie. Et c'est celle qu'il a infligée à ses enfants et particulièrement à moi.
Ton père t'a maltraité, je crois. Enfin,
je sais pas
si tu dirais comme ça, mais moi de l'extérieur, j'ai envie de te dire que tu as été victime de ton père.
Il y a plusieurs raisons auxquelles je réfléchis depuis très longtemps, mais j'essaie de trouver des raisons, plein de raisons, parce que un traitement comme ça vient de plusieurs raisons, j'imagine. Il y en a une entre autres, c'est que la dyslexie donne un certain nombre de caractéristiques à celui qui a la chance d'en bénéficier.
Tu es dyslexique.
Je suis dyslexique.
Tu le racontes dans le bouquin.
Comment?
Tu le racontes dans le bouquin.
Ouais. Et la façon dont c'est appréhendé par les autres, la famille et l'école surtout, c'est que ce sont des tirs au flanc, réfractaires, qu'ils mettent une mauvaise foi, une mauvaise volonté dans tout ce qu'ils font et que par conséquent, si eux-mêmes ne se sont pas propulsés à la marge tout seuls, eux-mêmes tout seuls, j'ai une répétition, mais c'est la société qui se charge de les poser à la marge, car ça dépend du degré de dyslexie, mais on est assez inapte à un certain nombre de choses, ce qui donne aussi d'autres qualités, une capacité de contournement des contraintes dont je me suis fait une spécialité, et ça c'est un talent, je crois.
C'est une force incroyable, bien sûr.
Contrainte killer, et ce qui entretient la paresse. Mais et donc lui était obsédé par l'idée de se faire obéir, et donc il a décidé de régler cette dyslexie à coups de rafales, de gifles. Et je peux le dire maintenant, moi j'ai très content d'être un cobaye pour la science. Je peux le dire, les rafales de gifles, ce n'est pas un bon traitement. Ça ne marche pas. On peut abandonner cette idée.
Je te refais des blagues.
Si quelqu'un avait l'intention de le faire arrêter, on va peut-être trouver d'autres solutions.
Ça ne fonctionne pas.
Mais en tout cas, ça c'était l'enfer à l'école parce que je ne comprenais rien, que j'étais incapable, ce que je raconte dans le texte, j'étais incapable de faire ce que mes petits camarades faisaient, ce qui était assez simple quand même, ce qui consiste du découpage, du coloriage, l'apprentissage de l'écriture, etc. Tout me semblait extrêmement compliqué, mais je faisais beaucoup d'efforts pour atteindre le niveau moyen des autres, et je n'y arrivais pas, donc j'étais pire que moyen, j'étais médiocre, et c'est la raison pour laquelle je me comporte encore comme ça aujourd'hui, c'est qu'on n'efface pas 36 ans de sentiments de médiocrité avec, comme je le dis aussi dans le livre, des bouffées délirantes de mégalomanie qui me permettaient de tenir. Donc plus ma réalité était pathétique et mauvaise, plus mes rêves étaient délirants. Et c'était un moyen de tenir.
Oui, c'est ça, mais ça te... Je veux dire... Tu dis c'est un moyen de tenir, mais pour moi, ça justement, cette maltraitance-là n'a jamais étouffé l'intégralité de tes rêves, justement. Et c'est ça qui est fou.
Ben non, parce que vrai. Là, je vais tomber dans le pathétique, mais honnêtement, quand on réalise que on ne comprend rien et à ce qu'on nous demande et que on n'est même pas capable de faire la moitié de ce que font les autres, on passe pour un débile et on devient persuadé d'être débile soi-même. Et donc, s'il n'y avait pas ces rêves dont je parle dans le bouquin, il y a pas que les petites filles qui rêvent de princesses, il y a aussi les petits cancres. Si je m'étais pas attaché à ces trucs délirants, il y avait aucune raison que je ne saute pas par la fenêtre.
Donc j'ai toujours entretenu des rêves délirants qui me permettaient de m'endormir. Un soir sur deux, je rêvais de la manière dont j'allais tuer mon père. Puis l'autre soir, je rêvais de la manière dont j'allais devenir une petite princesse, en somme. Et donc, oui, c'est ce qui m'a permis de tenir. Le truc qui est top dans ma vie, c'est là que j'ai une chance inouïe, c'est que à 36 ans, je me suis transformé en princesse, la citrouille. Mais c'était un peu long. Mais j'ai toujours entretenu ce genre de truc, car bah sinon on tient pas. Enfin, sinon on tient pas. Enfin, combien de fois je me suis demandé quelle était la durée de vie d'un être humain, pour l'espérance de vie d'un homme. Et là, tu dis waouh, ça va être long quand même. Si c'est comme ça encore jusqu'à 83 ans, il me reste 50 ans à tirer. Je suis pas sûr d'avoir le courage. Enfin, heureusement que quelqu'un a ouvert la lumière pour Beau Jungles, parce que sinon c'est pénible, vraiment.
Est-ce que t'as la sensation, avec le recul maintenant, que en gros, bah, t'étais clairement pas fait pour le système scolaire, quoi, tu vois ? Qu'est-ce que la société, tu vois, aurait pu faire d'un petit garçon comme toi, bah, qui j'imagine avait plein d'autres qualités ?
Ouais, c'est... alors.
Je n'arrive pas
déjà
à croire
qu'ils ont fait beaucoup de progrès.
Que tu étais un cancre dans toutes les disciplines.
Comment ?
Je n'arrive pas à croire que tu étais un cancre
dans toutes les
disciplines.
J'étais
un gamin intelligent.
J'étais très bon en sport.
Non, mais tu étais un gamin intelligent, c'est sûr et certain. C'est juste.
J'étais très bon en sport. J'étais très bon en histoire géo. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que j'ai tout oublié. À part Marignan 1515.
Ce qui est déjà
pas
mal.
J'ai dévoré beaucoup de livres. Mais pour parler de mes mégalomanies. Quand j'avais 14 ans, je suis tombé sur des gazettes de Rouault. Voilà, je voulais être marchand d'art. Et donc, j'ai passé 2 ans à lire les gazettes de Rouault. Donc, j'avais toujours des marottes qui me permettaient des rêves délirants. Marchand d'art, ça me parlait bien. Les types avaient des chapeaux, ils se promenaient chez les commissaires-priseurs. Ça sentait l'opulence, l'élégance, la distinction et l'érudition. Donc ça, c'était un rêve qui me plaisait, ça convenait à tout. Il y avait l'esthétique, il y avait les connaissances, il y avait le milieu, où je très bien me faufiler avec mes petites bottines sur les tapis, les moquettes rouge chant des salons de vente. Donc j'ai lu plein de gazettes de Rouault dans cet objectif-là, et puis je crois que j'ai tout oublié, mais il y avait tout le temps un truc. J'étais bon en histoire, j'étais bon en sport, et voilà, je n'étais pas bon en français. Ouais, voilà, mais le sport, quand on est bon en sport et qu'on est mauvais dans le reste, ça vous fait quand même passer pour un débile, quoi. Même si je suis tout petit, j'étais celui qui courait le plus vite, qui sautait le plus haut. Oui, j'avais des qualités, mais qui n'étaient pas les qualités que je voulais avoir, en fait. Voilà. Si, l'histoire, c'était bien, mais à la fin, sur 10 matières, il y en avait 2 qui l'emportaient, donc ça équilibrait la moyenne à 8. Parce que toutes les autres matières, j'étais à 2, 3, voilà, ça faisait passer le truc à 7, 56. Ça restait très moyen. Et mon père me voyait tout sauf sportif de haut niveau. Et puis moi aussi. Enfin, et puis je l'aurais jamais été de toute façon. Mais enfin, il aurait pu m'inciter dans cette voie-là, ce qu'il n'a pas fait. Et heureusement, il me ferait chier de me promener en jogging aujourd'hui. Non, mais je suis clair. Je préfère avoir mon chapeau ridicule que
très beau chapeau.
Que d'être. Avec un jogging. En revanche, j'étais hyper bon en gymnastique. J'étais très bon en gymnastique. Plein de médailles, plein de coupes et tout. Mais comme mes résultats scolaires étaient merdiques, il m'a enlevé de la gymnastique avant que l'équipe dans laquelle j'étais aille au championnat de France l'année d'après. Donc ça,
incroyable.
C'était une grosse déchirure, ouais.
Donc en
mais
plus,
championnat de France, attention, des petits et tout, etc. Ouais, mais il y a eu un truc à un moment, c'est comme la salle de sport dans laquelle je pratiquais la gymnastique était à côté de l'école, c'était aussi la salle de sport de l'école. Et en CM1, le prof de gymnastique était aussi le prof de l'école, et c'est moi qui entraînais tout le monde. Et j'avais une immense fierté. Parce que j'étais en extrascolaire, mais en intrascolaire aussi. Et j'entraînais tout le monde et j'avais un rôle. C'est pour ça que la déchirure a été terrible. C'est que je me suis dit, bon, je suis bon dans un domaine et paf, tu gicles parce que t'es mauvais dans les autres. Et donc, du coup, je suis devenu quasiment mauvais dans tous. Ça m'a chagriné. Mais maintenant, je le remercie. Pourquoi ? Ben parce que je vois les gymnastes qui sont encore plus petits que moi et qu'un gymnaste ne gagne pas le salaire de Mbappé. C'est vraiment, tu peux être champion du monde de gymnastique et tu t'achètes pas ta maison avec.
Ouais, c'est vrai.
Et d'ailleurs, ils sont tous d'anciens d'Europe de l'Est. Non, je suis content d'avoir quitté la gymnastique. Et désolé pour le milieu, pour la fédération sportive des gymnastes. Je suis content de l'avoir quitté. Ouais, ça m'aurait fait chier d'être. C'est comme gagner 300 000 euros au loto, alors que la cagnotte était de 50 millions. On se dit, ça m'arrivera plus jamais de ma vie. Bon bah voilà, tu deviens champion du monde de gymnastique, tu touches tes 15 000 boules et puis tu disparais. C'est quand même con. Vaut mieux être champion du monde de 100 mètres. Ça, la carrière est faite, l'argent, la maison, tout ça. Ouais. Voilà, c'est des petites nuances comme ça qui sont. Faut pas perdre ça de vue
c'est
dans la vie.
C'est important.
Ouais. Tiens, je vais devenir champion olympique de gymnastique. Non, mon gars, pas bon. C'est 15 jours de gloriole et après c'est terminé. Et en plus, tu restes tout petit toute ta vie.
Tu restes tout petit.
Oui. Donc non. Oriente-toi vers le football. Voilà, va des trucs un peu plus rémunérateurs, des sponsors et tout ça. Oui. Ah, il faut être stratège. Hein.
C'est important l'argent ?
Oui. Ah ouais, clairement. Oui. Oui, j'en ai pas eu pendant très longtemps. J'étais très pauvre. Et mon père, entre autres gentillesse, ne nous donnait pas d'argent, jouait avec ça pour faire un chantage ou des rivalités entre ses enfants. Ouais. Il y avait un rapport très malsain à l'argent, fausses promesses, même la première promesse d'argent de poche, que ça devait être 2 francs sur un post-it, il l'a pas respecté, tout était faussé. Oui, donc c'est alors moi j'ai vécu dans un milieu bourgeois, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont, l'appartement était très grand, etc. Mais il me donnait pas de pognon. Mmh. Voilà. Donc on est à cheval, quoi. Là, j'ai une super anecdote qui est pathétique. Mais il y avait un type, quand j'étais en première année de vente action marchand, qui s'appelait, un BEP donc, qui s'appelait Jean-Christophe. Charmant, très bon pote, habillé en Elie Hansen et tout ça, etc. Il était orphelin de père, sa mère était au RMI. Et à la fin de chaque semaine, je lui piquais des clopes, qu'il me donnait bien volontiers, parce qu'il était très généreux. Et au bout de quelques mois, je l'ai invité chez moi, parce que mes parents n'étaient pas là, je crois, ou j'en sais rien, pour des cours, ou, bref, peu importe. Il est rentré dans l'entrée, il a dit « Waouh, mais tu te fous de ma gueule ?» Et j'ai vraiment pas compris. Il me dit « Mais t'as vu où tu vis et tu me taxes des clopes toutes les semaines ?» Et donc j'étais un peu sidéré, et je savais où je vivais, bien sûr, j'ai pas débarqué. mais en fait... Lui avait 200 francs d'argent de poche, moi j'en avais zéro. Et voilà, il y a eu une dichotomie entre ce qu'il voyait et ce que je lui taxais. Et il s'est dit, c'est pas normal, quoi, il était interloqué. C'est un peu bizarre, en fait, on vit dans un milieu, mais on n'en a pas tous les avantages. J'en ai eu plein d'avantages. Hein. Le fait d'être né justement dans ce milieu, de bénéficier... d'un avantage culturel. Enfin, j'ai bénéficié de plein d'atouts, clairement. Mais l'argent n'en était pas un. Et ensuite, la vie de marginal que j'ai menée n'a pas rempli les poches. Donc, j'ai toujours été moyen ou pauvre. Pauvre plus, pauvre moins, quoi. Il y a eu des années de RSA. Et puis, le moment où j'ai écrit le texte, mon premier texte, qui s'appelle l'intérêt du crépuscule ou le syndrome du cyprin doré. Là, c'est bien simple, je venais de me faire virer pour faute grave et je n'avais pas le droit aux indemnités chômage parce que c'était une faute grave. Et donc, mon petit frère m'a accueilli chez lui au Pouliguen et comme c'est lui qui remplissait l'assiette, qui me payait des clopes et du café, je n'allais pas pousser le vice jusqu'à lui demander de l'argent de poche. Donc, j'ai passé ces 6 mois-là sans un centime à moi dans les poches. Donc, et c'est pas du tout pour faire Cosette. Hein. D'ailleurs, c'est une expérience très intéressante, même si tu la souhaites à personne. Je n'avais que ce qu'on me donnait. je n'avais pas de j'avais pas de piécette, c'est-à-dire qu'une envie comme un pain au chocolat ou voilà, il fallait que je passe par mon frère. Donc c'est 6 mois, mais c'est ces 6 mois aussi qui m'ont permis d'écrire ce premier texte. Et d'être dans une ambiance, il n'est pas plus désœuvré, dénudé, pas plus à poil. Et je crois que je me suis dit à ce moment-là, t'es poursuivi par les banques, t'as des créanciers partout, voilà, t'as foiré toutes tes expériences professionnelles, t'es une merde, t'as une chance inouïe. Voilà, personne ne savait que j'habitais là, en tout cas dans les institutions. J'avais pas d'adresse officielle, j'avais pas de carte bleue. Bon, je me suis dit foutu pour foutu. T'as un gros trou noir, t'as qu'à sauter dedans. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à écrire pour de vrai, parce que j'avais toujours envie d'écrire, mais comme c'est dit dans le texte, je reculais à chaque fois parce que c'est plus pratique d'accepter un petit boulot qu'on n'aime pas, parce que c'est plus. Puis ça me faisait flipper aussi le fait de me mettre à une table et de. Voilà, donc là je me suis dit bon c'est le trou noir, c'est la merde absolue, t'es verni mon pote, vas-y saute dedans, et j'ai sauté dedans, et ce livre n'a pas marché. J'y ai consacré 2 ans de ma vie, mais ça a été, j'ai appris à écrire grâce à ce livre.
C'était le pied à l'étrier finalement.
Exactement, ouais. Le pied à l'étrier, et puis il y avait, j'étais mon propre professeur, mon propre élève, et dans ce sens-là ça me plaisait bien. Je testais la manière dont j'aimais écrire, la manière dont je trouvais des techniques, la manière dont je testais mes idées, la manière dont je commençais mes chapitres, je les concluais. Donc en fait, ça a été les 2 années les plus utiles de ma vie, mais elles m'ont rien apporté, quoi, rien rapporté.
Ouais. T'as tout un paragraphe où tu parles tu fais un peu des projections sur justement combien va te rapporter ce livre sur 2 ans.
Là, c'était vertigineux. Là, c'est une catastrophe. Faut absolument pas lire ça quand vous vous mettez à écrire. Hein.
C'est incroyable.
S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont un tapuscrit en cours, n'écoutez pas ce passage. C'est la déprime absolue. J'avais déjà écrit donc 200 pages la première année, sans trop me poser la question. Je dis dans le livre que je m'étais pas du tout posé la question. En fait, je m'étais posé la question, mais sans faire de recherche, parce que justement, j'avais peur du résultat. La question, le résultat, c'est simple. C'est que là, j'ai passé 2 ans sur l'intérêt du crépuscule, on va l'appeler le cyprin doré, ça va être plus simple. Ce texte-là, qui fait 451 pages, 2 ans de travail. Donc, et 2 ans de réflexion avant, donc 4 ans, quoi. Un premier roman se vend à 500 exemplaires. La moyenne d'un premier roman, c'est 500 exemplaires, et vous touchez 90 centimes par livre.
Environ 10% à peu près. Quoi.
Ouais, 8 normalement pour un premier roman dans les grandes maisons d'édition. Donc j'avais fait mon calcul, 2 ans de travail, ça représentait 89 centimes de salaire journalier.
Par jour.
Donc c'est moins qu'au Bangladesh, là pour le coup j'ai vérifié, au Bangladesh il gagne un petit peu plus. Enfin, tout ça pour dire que j'étais au milieu du chemin et que de rechercher combien je pouvais gagner avec ce travail qui m'accaparait totalement, toute cette solitude et tout, c'est vrai que sur le moment on se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et vous êtes à moitié du chemin, quand vous paumez, ce qui est souvent mon cas, soit vous décidez d'être aventurier, vous avancez, vous dites bon bah foutu pour foutu, je vais bien retrouver mon truc. Soit vous dites bon je suis pas trop loin de la ligne de départ, donc il suffit de faire demi-tour et personne ni vu ni connu. Hop là, j'annule mon rendez-vous, puis tout ça est réglé. Et c'est la question qui se pose. Mais bon, j'ai quand même décidé de continuer, pas par courage. Hein, soyons clairs, c'est pas une qualité qui me caractérise. Par absence de choix. Et par peur d'un retour au monde normal. Ça me terrorisait.
J'ai l'impression que, justement, tu vois, quand je te disais qu'est-ce que l'école aurait pu faire pour un petit garçon comme toi, pour moi, il y a un truc où c'est ton génie, quoi.
J'ai pas répondu à la question.
Ouais, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est ton génie,
ouais,
ça.
Ouais, bah,
c'est-à-dire que
pas de gros mots.
Non, mais attends.
L'école...
Attends. Et quand je dis génie, je suis pas en train de dire que t'es un génie. Je suis en train de dire que c'est ta zone de génie.
Ah, ça m'a... Oh, une zone. Bah, alors, tu vois, j'ai une petite zone de génie.
Mais c'est pas une petite
zone. Mais ça, c'est une crotte de nez. C'est pas une zone de génie. Ce que tu es en train de montrer sur la table, c'est pas moi d'ailleurs en plus. C'est une zone de génie de quelqu'un d'autre. C'est une miette de génie d'une autre personne.
Ton bouquin, l'écriture, c'est ta zone de génie. Oui, tu vois. Pour moi, t'es vraiment dans... C'est... En fait, si on doit tous, en tant qu'humain, tu vois, avoir un truc dans lequel on peut exceller, tu vois, bah, là, t'es en plein dedans, quoi.
Oui, c'est pour... en tout cas, de perdre ça... ça m'a fait paniquer. Pour revenir à l'école, déjà, ouais. S'il y a un coup de griffe à Monsieur Fleury, mon prof de français, je le remercie quand même à la fin du chapitre. Pas de revanche à prendre. Déjà à l'époque,
il est terrible ce.
Désormais, ce la dyslexie. Oui.
Où tu racontes tes vacances. ça m'a tellement déprimé.
Putain, mais j'ai plusieurs anecdotes.
C'est des rencontres, hein, tu vois, à un moment donné. C'est vraiment des rencontres. Si t'as un prof là qui te.
Bah, il y en a aucun qui m'a tenu la main, en tout cas.
Ouais, c'est ça.
Il y en a certains qui m'ont mis dans la gueule. Et ça aussi, je m'en fous. J'en prenais tellement.
Oui, c'était une de plus.
Mais.
Terrible.
Les dyslexie, en 80, faut bien savoir que c'était un grand mot. C'est toujours un peu flou d'ailleurs, hein. Et désormais, c'est catégorisé en dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. Donc déjà, il y a plus de catégories, il y a plus de, le mal a été ciblé, ou enfin, le mal, la faille, ou le, je n'en sais rien, la déformation, peu importe. Et puis c'est beaucoup plus pris en charge. Désormais, les dyslexiques ont une demi-heure de plus pour faire leurs devoirs. On leur donne des QCM parce que ils comprennent plus facilement et ils répondent plus vite. Donc tout est facilité. Mais à l'époque, bon bah voilà. Moi je me souviens, on était 30 ou 32 dans la classe. Bon bah il y en a un qui traîne. On essaie de le pousser un peu. Puis ça marche pas, ben on le pousse pas. Puis on lui propose un redoublement. En CM2, puis en fait, bah non. Et puis, bah, il redouble en sixième, il redouble en cinquième, et puis basta. Et puis après, moi, à partir du deuxième redoublement, j'ai décidé moi-même de me foutre à côté. J'ai dit, ça suffit, en fait. Ça suffit de. C'est bien beau de faire des efforts, enfin. Mais ça ne marche pas. Donc, il y a un moment où on se dit, je me fais plus de mal à essayer d'être comme les autres qu'à marcher à côté et d'accepter mon rôle de marginal. Donc, c'était un sacré soulagement quand j'ai décidé en sortant de ce cours de biologie qui m'a gonflé sur les gamètes mâles, la reproduction des oursins en milieu marin. J'étais avec ma blouse et mes ongles noirs et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'en ai rien à foutre. Et puis ça suffit, ces conneries. Parce que ça faisait 6 ans que j'étais à l'école et que 6 ans d'efforts sans aucun résultat, c'est décourageant. Donc je ne sais pas si c'est du courage, de la bêtise ou de la volonté ou une marque de caractère, mais en tout cas à partir de ce jour-là, bah, j'ai regardé les autres à côté, quoi. Je ne dis pas que j'ai toujours été à côté parce que parfois il y a une bonne note qui tombe par hasard, on ne sait pas trop. Évidemment, ça rebooste comme ça pendant une semaine ou deux, puis ensuite c'est raplapla et voilà. Évidemment, on a toujours besoin de lumière, donc quand la porte s'entrouvre et on voit un petit 11 sur 20 ou un 12, on dit waouh, ouais, bah ouais, pourquoi pas. Et puis c'est replouf, replouf, replouf. Donc le sentiment général, c'est j'en ai rien à foutre. Mais il y a des moments de conscience où on se disait, où je me disais, globalement, j'ai traversé tout ça en me marrant, mais il y a quand même des grands moments de désarroi, quoi. Les redoublements, c'était quand même sacrément pénible. Voilà, on voit les gens s'éloigner dans les cours de récréation. Ils sont au niveau des quatrièmes, mais on est à sa deuxième, sixième. On se dit waouh, c'était quoi. L'avantage là-dedans, c'est que je faisais la taille des sixièmes. Donc au moins, je paraissais pas pour un nain. J'étais à la bonne taille. Mais même dans les sixièmes, j'étais encore débile. Donc,
waouh.
C'était un peu pénible, ouais. Et j'ai grandi à un moment, j'ai pris les 5 cm qui me séparaient de la petitesse, ouais. Et j'ai une taille moyenne-basse. Voilà, c'est un peu mon niveau global, quoi. Oh. Je suis moyen-bas.
Mais t'es pas moyen-bas. C'est incroyable ce que t'écris.
C'est très gentil.
Non, mais vraiment, c'est-à-dire que pour moi, en fait, ça fait rire, ça fait pleurer, donc ça marche. Tu vois.
Merci.
T'arrives à faire les deux, et pour moi, en fait,
c'est ce que je voulais entendre.
Les œuvres littéraires ou les films, peu importe en fait, les œuvres d'une manière générale qui arrivent à faire rire et pleurer en même temps, moi c'est 5 étoiles. Hein.
Ben c'est non, c'est très sympa. Non,
vraiment.
C'est vrai que ça me rappelle de bons souvenirs, puisque Bojangles se faisait rire et pleurer aussi. J'avais deux mots quand j'ai commencé le texte. Je voulais que ce soit touchant et drôle. Néanmoins, il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est que... bon, alors déjà, je déteste le larmoyant, donc j'essaie toujours de m'arrêter à la frontière et j'essaie toujours de transformer un peu de... Mais ça, c'est spontané, c'est-à-dire que c'est dans ma nature. Pour l'enterrement de la mère dans Bojangles, je commençais à avoir les larmes aux yeux et j'ai inventé la mèche du curé qui s'envole et là j'ai éclaté de rire. Et donc j'ai continué les larmes aux yeux, mais pour une autre raison. J'ai quitté le... c'est une question de nature, c'est-à-dire que c'est pas de la stratégie. Je suis en train d'écrire.
On sent bien que t'es comme ça. Quand
je suis la gorge un peu nouée et il faut qu'il y ait quelqu'un qui se casse la gueule ou voilà. Là, en l'occurrence, c'est la messe du curé qui se transforme en antenne qui parle à Dieu. mais ce qui est étonnant, c'est que autant quand je me rassure entre le point final et l'édition du livre, la parution du livre, je ne repense qu'au moment drôle parce que ça me fait toujours sourire, pas rire, mais toujours sourire. Et alors que quand je relis les passages touchants, ça me gonfle. Ouais. Et donc là, effectivement, il y a des gens qui m'ont dit j'ai pleuré et j'ai ri. En fait, je demande tout le temps aux gens est-ce que t'as ri ? Mais je leur demande jamais est-ce que t'as pleuré. C'est bizarre.
Parce que t'as pas envie de créer cette émotion-là ?
Je ne sais pas. Là, je savais qu'il y avait des moments touchants, mais pas au point de faire pleurer certaines personnes, puisque je reçois des textos de gens qui ont pleuré. Et donc, tant mieux. Ça me plaît. Mais bizarrement, c'est pas ce que je mets en avant. C'est parce que c'est très étonnant.
Ça te gêne ?
Peut-être.
Ok.
Ouais, peut-être.
Une forme de pudeur.
Si ça n'est pas conscient, si ça n'est pas formulé, si c'est une réaction, c'est que ça doit bien venir de quelque part. Ça doit m'embarrasser. Ça doit m'embarrasser. Ouais. De toute façon, ça n'est pas très naturel. Elle est devenue. Blogueuse, je vais pas donner son nom, mais je suis allé en 2016 faire une conférence à Sciences Po, et comme ça, là, c'était absolument parfait, parce que en ayant bac moins 3, j'étais avec des bac plus 6, donc on avait une décennie de différence, et c'était sympa d'être interrogé par des gens beaucoup plus brillants que moi. Et il y a une jeune femme qui est venue, parce que Sciences Po 21, et c'est la première fois que quelqu'un pleurait devant moi pour mon travail. D'habitude, les gens pleuraient, mais de dépit, pour les boulots précédents. Enfin, ils pleuraient pas, mais enfin, ils étaient agacés. C'est la première fois que je voyais une manifestation aussi touchante, bouleversante, aussi et désarmante de ce que mon livre avait produit. Voilà, une jeune fille pleurait à chaudes larmes. Elle avait du mal à reprendre son souffle. Je savais pas où me mettre. Mais on est, y a pas d'école pour préparer à ce genre de réaction. On sait pas quoi faire. Toucher la main, l'épaule, dire quoi, des conneries, ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Ou je suis désolé. Bref, c'est vraiment un moment. Je n'y étais pas préparé et c'est désarmant, quoi. Alors que d'habitude, les gens venaient plutôt furieux pour constater le fruit de mon travail. Là, il y a quelqu'un qui pleurait avec des sanglots et voilà, c'était intense. Et même les fois d'après, j'ai jamais su comment me comporter. Jamais su comment me comporter.
C'est trop gros.
Non, mais j'aimerais bien être le mec plein d'empathie, qui comprend tout et tout ça, et qui a la bonne phrase, le bon mot. Je pense que J'ai de l'empathie, mais je sais pas comment la manifester. Alors, je suis un peu maladroit, embarrassé. J'ai aussi envie de chialer. C'est à la fois sympa et embarrassant. Voilà. Ça me fait du bien et ça me dérange. Voilà. Vous savez tout.
Justement, en fait, tu vois,
rien de clair dans ce que je dis.
Mais bien sûr que si. Pourquoi ?
Parce que tout est paradoxal. Je suis heureux et embarrassé.
Tu es humain.
Gêné.
C'est ça.
C'est pas la vie.
Ça s'appelle l'humanité.
Par l'humanité.
Non mais
on est
de paradoxes. On est plein de humains.
Bien sûr.
Et bien sûr que.
Non, je comprends bien. Je comprends bien. C'est l'humanité. Il faudra retenir ça, chers auditeurs. l'humanité. C'est universel. Voilà. Ce livre est universel.
Mais justement, j'allais t'en parler. Parce que quand on s'est parlé.
Attention, gros mot. Hein.
Quand on s'est parlé de l'histoire de Daron.
Ouais.
Tu parles de toi dans cette nouvelle là qui nous avait permis de pouvoir nous rencontrer, où tu parles de toi, de ton rapport à ton père, etc.
Oui.
Et tu semblais un peu gêné de parler de toi.
C'est bien joué.
Là où t'es.
176 pages que de moi. J'ai tartiné du moi dans tous les sens.
Ton développement personnel était en cours d'écriture, etc. Ou t'étais en train de le terminer. Et tu me disais, je suis un peu embêté.
Au milieu.
Ok, t'étais au milieu. Et tu me disais, je sais pas trop quoi faire parce que jusque-là, t'as écrit de la fiction, t'as plutôt inventé des personnages et tout. Et même si ça venait de toi et que c'était très personnel, tu n'étais pas le personnage principal. Qu'est-ce que t'en retiens de cette expérience, toi? D'avoir écrit à la première personne et d'avoir parlé d'avoir fait de toi, et puis tu conclus le bouquin comme ça, en fait, en disant finalement j'étais le meilleur sujet, quoi.
J'ai le sujet le plus grotesque.
Plus grotesque.
J'ai jamais dit que j'étais le meilleur sujet.
Le meilleur sujet pour
attention, chers auditeurs, je ne dis jamais ce genre de choses. Sur la couverture, il y a marqué: je réalisais que le personnage le plus grotesque que je connaissais, eh bien, c'était moi. Vous voyez, sur la couverture, il n'y a pas marqué meilleur personnage. Non, les mots ont un sens. Le type dans les librairies, le meilleur personnage, c'est moi. Il a pété les plombs, ce type.
Mais pour faire ce livre, en tout cas.
Je ne sais pas. Je n'ai aucune réponse à apporter à ça. Je cite une étude de Harvard qui dit que parler de soi stimule la même zone du cerveau que la cocaïne, un bon plat et le sexe. Mais l'étude précise que c'est parler de soi. Je ne sais pas si écrire sur soi. En tout cas, j'ai pas senti les mêmes effets que un cul, une entrecôte et de la cocaïne en écrivant ce texte. C'est dommage d'ailleurs parce que j'en ai peut-être écrit 7 ou 8 dans l'année. Donc parler de soi stimule. Voilà. Écrire, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce livre m'a fait du bien, du mal. Je n'en sais rien. Okay. Alors, vraiment, je n'ai aucune réponse là-dessus. Non. Je ne sais pas si écrire me fait du bien de manière générale. Ah. Je ne sais pas si. Je le dis dans le texte. Moi, écrire n'est pas viscéral pour moi. J'aime ça. Comme je le disais, avec les patates sautées, c'est un des seuls trucs que je sache faire. Donc je le fais. Je passe parfois des matinées fabuleuses et d'autres matinées désagréables. S'il y a un truc que je ne connaissais pas, c'est que j'ai le sentiment, non pas du travail bien fait, mais du travail fait. Ça, c'est un truc que je n'avais jamais connu dans ma vie professionnelle. Et comme je suis le seul à en juger, mon niveau de jauge, les lecteurs le jugent après. Mais moi,
sur tes bouquins précédents, t'avais pas ce sentiment-là?
Du
travail fait.
Ah si.
Ah oui,
du travail fait.
Tu veux dire quand tu sors un bouquin
dans le domaine de l'écriture, d'accord. Je ne sais pas si ça me fait du bien. Je ne sais pas si ça me fait du mal non plus. Il y a plein d'auteurs et je les crois sur parole parce que nous sommes tous différents qui disent c'est cathartique, c'est vital, c'est mon oxygène. Je ne peux pas passer une journée sans écrire ou sinon je me sens vide. Non, moi, c'est de savoir que j'ai un truc à faire désolé pour les puristes de la littérature, mais le matin quand je me lève, l'écriture, ça s'appelle un truc à faire. Et donc, j'ai un truc à faire, j'y mets tout mon cœur, je suis très exigeant. C'est pour ça que oui, mais c'est pour ça que j'ai pas édité les bouses que j'ai écrit avant. C'est que je suis exigeant. Mais est-ce que c'est viscéral? Non. Soyons clairs, je serais rentier si j'avais vendu 12 millions de Bojangles, est-ce que j'aurais continué à écrire après? Peut-être que non. Je me trompe, mais peut-être que non.
Tu ne peux pas savoir de toute
façon.
Mais
peut-être que non.
Tu racontes que t'es un oisif, que t'adores l'oisiveté.
Ça vient en partie de la dyslexie qui a créé ensuite ma nature, qui essaie de fuir les contraintes, tout ce qui s'apparente à. dire, quand je suis rentré dans non pas ce milieu-là, mais quand j'ai fréquenté des gens du cinéma, etc., à la période de... Il y a plein de gens qui disaient, faut qu'on travaille ensemble. Et ce qui était la manifestation d'un désir dans leur bouche, d'une générosité dans leur bouche, était une menace dans mon oreille. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je lui ai fait, ce type, pour qu'il me... Avec la main sur l'épaule, on va travailler ensemble, hein, petit clin d'œil de Winner, et je dis, oh là là, Seigneur. Je dis, oui, bien sûr, avec joie, j'ai pourvu qu'il me rappelle jamais. Et...
Mais pourquoi t'arrivais pas à avoir le compliment, ou alors pour toi c'était... Oh,
non, 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 mais c'est pas un compliment, c'est un engagement. C'est, il faut qu'on travaille ensemble.
Okay.
Et tout d'un coup, c'est paf, là, il y a un énorme mur de pierre. Je dis, oh là là, attends deux secondes, j'ai mes petites histoires à régler. Mais tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Pauvre associé. Non, mais... non mais je commence déjà à culpabiliser des ennuis que je vais attirer au type avec qui je vais travailler. Non, je pense que la dyslexie, mes échecs scolaires ont détruit la notion du travail. Par ailleurs, il y a une citation de La Montagne Magique du personnage qui s'appelle Hans Castorp. Qui est une réflexion jumelle à la mienne. Et donc quand on veut être intelligent, on cite quelqu'un d'autre. C'était, il avait une grande idée du travail, mais il s'en méfiait un peu, car celui-ci ne lui réussissait guère. Et j'aime beaucoup le travail des autres. Non, mais c'est pas une notion qui est totalement négative dans ma... Et attention, c'est pas une phrase à la Jean-Yann, j'adore regarder les gens travailler, c'est pas ça. J'aimerais bien être un petit manutentionnaire de l'écriture, ouais. et de me pointer avec ma petite blouse dans mon atelier tous les matins, j'aimerais bien. Sauf que, moi, c'est place à la glande directe. Non, mais c'est pas ça. Je vais me promener dans la montagne. Oui, très bien, ça, c'est fantastique. Les mains derrière le dos, je regarde tout, n'importe quoi. Je lis beaucoup, ça ne me demande pas d'effort. Je bouffe, je raconte des conneries. Oui, j'aimerais... Si je n'avais pas besoin de gagner ma vie, je ferais ça. D'ailleurs, comme beaucoup de gens, j'imagine. Mais j'ai une capacité à laisser le temps se dilater et sans rien faire. Voilà. Et ces derniers temps, je me trouve très actif. Ouais, c'est-à-dire que je fais mes lacets en remplissant le bac à glaçon. Mais...
Déjà, là, tu es parti pour faire de la promo. Là.
Oui, là, mais la promo, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est un truc d'assister. Non, c'est formidable.
Oui. On te fait un planning.
Là, ce matin, hier soir, j'ai reçu le mail, 9h30, le taxi, 9h42, vous allez rencontrer Bernard Lehu à RTL. 9h54, l'interview est terminée. 10h02, on prend un taxi. Vous allez rencontrer Alice de Velay du Figaro. Ainsi de suite. Vous serez accueilli par Maryse. Voilà, 19h47, fin de la journée. Au revoir. N'oubliez pas de délacer vos lacets et de mettre vos petites souliers à côté de l'oreiller. Et puis voilà. Et puis alors là, moi je peux faire de la promo pendant 3 mois. Hein. Et je suis totalement pris en charge. Bonjour Marie-Yvonne, bonjour Anne, très bien. Ah, et c'est quoi comme ville là? C'est Rochefort, côté fantastique. Répétez toujours la même chose. Je suis très poli, enfin j'espère. Oui. Ouais, peut-être pas la nuit, pas toujours la nuit, mais en tout cas le jour je suis poli. Et ouais, alors ça c'est parfait. C'est une vie d'assisté. Voilà. Je sais déjà ce que je vais dire. Il n'y a pas de surprise. Oui.
Et ben bravo Olivier.
Merci, c'est terminé.
Écoute, ouais, il faut
Et sur cette phrase-là, je suis un assisté, j'adore la promo.
Ça marche.
Merci,
bien.
Merci Olivier.
Ça fonctionne.
On reste un peu sur notre fin.
Faisons une petite update sur ta vie de papa, parce que la fois passée, on t'a quitté. Ça y est, t'es allé quelques semaines, hein, c'était vraiment. Et là, pouf.
Ah voilà, pouf.
Catapulté.
C'est la seule réponse que je
dans la vie de papa. Non. Comment ça se passe la vie de papa?
Je ne sais pas comment répondre à cette question. Ouais. Ça se passe très bien. Je suis très heureux, mais je ne sais pas. J'ai reçu plein de textos. Comment as-tu accueilli? Et enfin, ça me semble tellement vaste. Comme nous sommes pleins de paradoxes. Oui. La seule chose que je pourrais répondre, c'est que j'ai toujours été très attaché à la liberté. J'ai toujours mis ça au-dessus. C'est grandiloquent. mais en tout cas, c'était la seule chose à laquelle je pouvais aspirer et qui me semblait ne nécessiter aucun diplôme. Il n'y a pas de diplôme de liberté, ça tombait plutôt bien. Comme j'avais à terminer mon texte pendant les trois premiers mois de la naissance de mon fils, j'étais extrêmement stressé, donc j'ai commencé en étant un père absent et nerveux. Et que après, j'étais très heureux, mais que je voyais ma liberté fondre. Ça m'a un tout petit peu angoissé au début. Et désormais, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je suis très heureux de voir ma liberté amputée pour ça. Mmh. Voilà, c'est la seule réflexion à laquelle je me livrerai, puisque c'est la seule dont je sois persuadé.
Ok.
Voilà, tout le reste sont des changements, des opinions changeantes. Mais ce qui domine, c'est le... Oui, je suis très heureux. Ouais.
C'est déjà énorme de savoir...
Ouais,
enfin, pour
ouais,
moi,
ouais,
d'avoir
ouais.
déjà cette réflexion de « Ok, j'ai oui. moins de liberté, mais en fait, pour faire le papa, c'est cool, quoi, tu vois ?»
Ben oui, mais le truc, c'est que comme j'ai galéré sur ce texte et que je comptais le finir avant que ma femme soit enceinte, et puis ça n'a pas été le cas, et avant que mon enfant naisse, et ça n'a pas été le cas, ben tout d'un coup, on se retrouve avec un enfant qui braille dans ses bras, et on se dit « Mais laisse-moi réfléchir. » Et laisse-moi déprimer. Et donc on se dit, mais je vais jamais m'en sortir, en fait, c'est terminé. Ce livre qui m'a demandé tant de problèmes, d'efforts et de dépression ne verra jamais la fin. Et voilà, donc maintenant tout est terminé, tout rentre dans l'ordre. Je suis très heureux de ce petit Henri.
Merci Olivier.
Merci beaucoup.
Développement personnel donc, hein.
Oui.
En librairie.
Le 1er mars.
Olivier, partout en France, bientôt.
Oui. Librairie, Fnac, charcutier traiteur, paysagiste, ce livre sera partout. Et j'espère un jour, dans les stations-service, coincé entre un sandwich triangle et des pinces crocodiles, je ne plaisante pas, car un livre qui se trouve dans les stations-service, c'est un livre qui a explosé. Et il peut se retrouver entre les sandwich triangle et les pinces crocodiles. Au début, quand j'ai vu Bojangles dans une station service, je me suis dit « Ah merde, ça pue, ça me fait vraiment suer, pour être poli. » Et en réalité, je me suis dit « S'il est là, c'est qu'il a cartonné. »
Voilà.
Donc mon objectif, c'est vraiment que ce livre finisse dans les stations service. Ouais. Voilà mon objectif. Voilà. Mégalomanie. Voilà. Objectif délirant, voir mon livre dans une station service. C'est top.
Tout en haut. Merci Olivier.
Merci beaucoup.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.